Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
Ce sont des images que l'on ne verra plus de sitôt, les leaders israéliens et palestiniens réunis sous l'égide du président américain à Camp David ou à la Maison Blanche. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis occupaient avec plus ou moins de succès le rôle privilégié de médiateur entre israéliens et palestiniens. Mais depuis la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, les palestiniens rejettent en bloc la médiation américaine. Mahmoud Abbas s'est exprimé à la tribune de l'ONU la semaine dernière, intervention rare pour chercher le soutien de la communauté internationale. Mais qui soutient vraiment les Palestiniens? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Dominique Moïsi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne, spécialiste de la politique internationale et auteur de Le Nouveau Déséquilibre du Monde, paru aux éditions de l'Observatoire. Face à vous, Dominique Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, historien, auteur de Antisionisme égale antisémitisme, point interrogation, réponse à Emmanuel Macron, paru aux éditions Libertalia. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Mahmoud Abbas, je le disais, a demandé l'organisation d'une conférence internationale dans les tout prochains mois. Est-ce que cela a la moindre chance d'aboutir, d'abord dans la mesure où ni Israël ni les États-Unis n'ont la moindre intention d'y participer, Dominique Moïsi?
Non. Vous venez de donner la réponse vous-même à votre question. Il n'y a aucune chance que cette conférence aboutisse à quelque chose.
Elle n'aura pas lieu du tout.
Il y a pas très longtemps, un gouvernement français, avec une initiative de Laurent Fabius, il fallait relancer la négociation sur le conflit israélo-palestinien. Laurent Fabius s'est fait plaisir. On n'a absolument pas avancé et les diplomates chargés de la question en France ne croyaient pas eux-mêmes
au projet qu'ils avaient lancé,
au projet qu'ils défendaient. Et là, on est dans le même cas de figure, sauf que ce n'est plus la France, c'est l'Amérique qui s'est quelque part retirée du jeu au moment où elle fait semblant de proposer une paix originale, nouvelle. Vous allez voir ce que vous allez voir.
On va y revenir sur la proposition américaine, mais sur ce projet palestinien, cette conférence internationale, vous êtes d'accord avec l'analyse de Dominique Moïsi?
Oui, je crois que la probabilité que Donald Trump ou Benjamin Netanyahou, s'il est encore Premier ministre, d'ici là, participe à une conférence internationale est très très faible. En revanche, l'idée de dépasser le partenariat obligé avec les États-Unis est une idée qui a du sens. On a vu, pour citer un fait qui n'est pas très connu en France, le dernier vote, le 19 décembre, sur la résolution annuelle qui prône le droit à l'autodétermination et à un État pour les Palestiniens, elle a été adoptée par 176 voix contre 7. Et dans les 7, il y a la Micronésie, les îles Marshall, Palau et Nauru. C'est-à-dire, c'est 176 à 3 en réalité. Israël, États-Unis et Canada. Donc on sent quand même que, au niveau en tout cas de l'ONU, de son Assemblée Générale, il y a un isolement diplomatique d'Israël qui est très fort et d'une certaine manière, Trump s'est engouffré dans cet isolement dont il fait lui aussi du coup les frais.
Ça veut dire que face à l'impasse, on essaye de trouver une solution alternative malgré tout qui...
Oui, le problème, pour aller vite et à l'essentiel, c'est que il n'y a pas d'alternative à l'Amérique et l'Amérique n'est plus une alternative. Donc on est dans un vide sidéral.
Alors je voudrais quand même qu'on écoute Nasser Al-Kidoua, le neveu d'Yasser Arafat, il est porte-parole du Fatah. Il résume assez bien la position actuelle de l'autorité palestinienne sur le sujet.
Normalement, c'est à la communauté internationale de gérer les conflits mondiaux. Ce sont les États-Unis et Israël qui ont créé une situation différente. Donc nous essayons de revenir à une situation normale. Et cela peut se faire sous l'égide du Conseil de sécurité. sécurité ou bien avec le Conseil de sécurité et d'autres partenaires. Tout mécanisme international raisonnable qui est sur la ligne du droit international nous conviendrait pour trouver une solution à ce conflit qui menace la paix et la sécurité internationale.
Dominique Vidal, on essaye de revenir, les Palestiniens essayent de revenir à une situation normale.
Une situation dans laquelle la communauté internationale applique le droit international. C'est une demande qui est.
Est-ce que la situation a jamais été normale sur ce dossier ?
Bien sûr que non. Ce qui est très anormal aujourd'hui, et j'aimerais qu'on puisse en discuter parce que c'est vraiment important, c'est la radicalisation des dirigeants israéliens. On n'a pas fait attention en 2015 au fait que se constituait une coalition où il y avait exclusivement la droite, l'extrême droite et les partis ultra-orthodoxes. Et cette coalition aujourd'hui est en train de passer de la colonisation à l'annexion. C'est pas des discours, c'est des lois. Le 6 février 2017, une loi qui permet, a priori, l'annexion de toute la Cisjordanie. En décembre dernier, une loi qui rend plus difficile la rétrocession d'une partie de Jérusalem à un éventuel État palestinien et plus facile l'exclusion de quartiers palestiniens de Jérusalem qui se trouvent au-delà du mur. Et puis vous avez une loi qui est en train d'être votée qui permet l'annexion de 5 blocs de colonies à l'est de Jérusalem, au total 130 000 colons, ce qui bouleverserait la démographie de Jérusalem. Donc, si vous voulez, on a là un problème nouveau, c'est-à-dire pour toute la communauté internationale, il y a un gouvernement qui est hors du droit international.
Dominique Moïsi, l'État hébreu, Israël est en train de renoncer quelque part à un processus de paix avec ce que nous dit Dominique Vidal et des projets de loi qui permettent une annexion en partie ou de l'actuel territoire palestinien.
Je crois qu'il y a la rencontre entre deux phénomènes. Il y a celui que vient de décrire Dominique Vidal. Il y a celui qui précède cette situation à l'intérieur d'Israël, qui est le bouleversement apporté par les révolutions arabes et l'échec des révolutions arabes à la centralité de la question palestinienne. En réalité, c'est au moment où Israël se durcit que la communauté internationale, que la communauté régionale même, se désintéresse du problème palestinien. Il y a au Moyen-Orient une autre clé de lecture. Il y a une opposition entre une alliance en pointillé derrière l'Iran, la Russie et la Turquie, et une autre alliance en pointillé derrière l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël. Et les Palestiniens sont les grandes victimes de cette double évolution interne à Israël et régionale.
Dominique Vidal, réponse peut-être sur ce point.
Écoutez, en clair, pour dire les choses tout à fait nettement, la direction israélienne est en train de passer de la solution des deux États à la solution d'un État, un seul, sur tout le territoire du mandat britannique sur la Palestine, avec une particularité, c'est qu'à l'exception du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, tous les dirigeants de l'actuelle coalition disent « pas question de donner le droit de vote aux Palestiniens qui seront annexés avec leurs terres ». Donc on sera dans un système d'apartheid à l'israélienne. Mmh. Je crois, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Dominique Moïsi, que les Israéliens peuvent se permettre cette politique est quand même violemment hostile aux résolutions de l'ONU, parce qu'ils ont dans la main un carré d'as. Premier élément du carré d'as, une administration américaine qui est plus pro-israélienne que jamais. Deuxième élément, un prince héritier saoudien qui préfère s'allier avec Israël et avec les États-Unis pour lutter contre l'Iran. Troisième élément, le chaos régional qui effectivement marginalise la question palestinienne. Et quatrième élément, on l'oublie souvent, le fait que la division entre Fatah et Hamas continue, ce qui fait que la communauté internationale qui reconnaît l'État de Palestine très largement, elle ne sait pas à qui parler, puisqu'il n'y a pas de direction unifiée de cet État, de Palestine en tout cas, sur le papier.
Tout de même, à Moscou, la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Javad Zarif, il a fait un entretien avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, et il a, alors qu'ils évoquaient l'un et l'autre le conflit syrien, il est revenu sur le fait que l'origine du mal, c'était encore une fois le conflit palestinien et le fait que le conflit israélo-palestinien, le fait que les Palestiniens soient toujours privés de leurs droits en Israël. Ça a longtemps été le moteur de, en tout cas, comme ça qu'on l'a beaucoup présenté, ce conflit qui était à l'origine de tous les autres. Et c'était assez curieux de voir que reprendre cette rhétorique qu'on avait un petit peu oubliée dans la part du ministre des Affaires étrangères, quand même, de la République islamique d'Iran.
Oui, mais je crois que ça s'inscrit tout à fait dans un jeu iranien parfaitement cynique, d'ailleurs. Il s'agit de dire à l'ensemble du monde musulman, c'est nous qui sommes les vrais défenseurs du monde musulman. Ça n'est pas l'Arabie Saoudite qui s'allie avec les sionistes. C'est nous qui maintenons. Donc, aller vers les chiites, ce sont les chiites. Et dans ce jeu d'émotions sélectives, il est intéressant de voir que au moment où l'Iran dénonce les atrocités commises par les Israéliens sur les Palestiniens, ils ne disent pas un mot sur les crimes commis par Bachar el-Assad sur sa population civile au même moment.
Tout de même, pour revenir sur le sujet un peu plus israélo-palestinien, même si évidemment tout cela a des liens indéniables, qui aujourd'hui peut faire pression sur Israël pour tenter de forcer un compromis ?
La réponse théorique, et qui est valable depuis 1967, grosso modo, c'est bien sûr les États-Unis. Mmh. Mais en l'occurrence,
qui d'autre ?
On imagine mal que Donald Trump fasse la moindre peine que ce soit à Netanyahou. Non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il a un électorat, et pas seulement un électorat juif, un électorat évangéliste, mmh, qui considère que le fait de rassembler les juifs en mais Terre Sainte, c'est décisif pour Armageddon, pour
mais ça,
la venue
on l'a bien
du
compris,
Messie.
Mais si les États-Unis sont résolument du côté d'Israël, qui d'autre peut faire aujourd'hui pression sur Israël ?
Moi, je crois personnellement que, je l'ai vérifié par les discussions que j'ai pu avoir la dernière fois que j'étais en Israël et en Palestine, d'ailleurs, il y a une vraie préoccupation des dirigeants israéliens par rapport à leur isolement diplomatique. Ils font semblant que ça n'a pas d'importance, que tout ça, c'est le machin, comme aurait dit quelqu'un autrefois. En réalité, le fait de se retrouver à 3 ou 4 pour voter contre 176, et je pourrais prendre beaucoup d'autres votes de la communauté internationale, le fait d'avoir un État de Palestine qui a été reconnu à l'UNESCO, à l'ONU, à la Cour pénale internationale, ce qui est important pour la suite, tout cela fait un peu peur. Et donc, on a des tentatives assez maladroites, je trouve, pour rompre cet isolement. Et notamment le fait d'aller chercher le soutien des pouvoirs populistes, en particulier de Hongrie et de Pologne. Ce qui provoque des effets boomerang terribles, parce que Viktor Orban fait l'apologie du régent Horthy, qui en dernière analyse a laissé 600 000 juifs hongrois être...
400 000.
Il y avait 600 000 en Hongrie et 400 000 ont été assassinés. Et M. Kaczynski vient de faire voter une loi en Pologne, qui est une loi qui interdit de mentionner la collaboration de Polonais, je ne dis pas des Polonais, je dis bien de Polonais, avec le nazisme. Aujourd'hui, les historiens polonais, sérieux, disent que 200 à 300 000 juifs ont été les victimes de Polonais.
Et Dominique Moïsi, ce sont les seuls alliés potentiels aujourd'hui d'Israël, les populistes d'extrême droite européens, en dehors des États-Unis ?
Non, en réalité. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vient de dire Dominique Vidal. Je suis choqué par cette alliance entre le gouvernement actuel d'Israël et les populistes en Pologne et en Hongrie. Mais il y a d'autres alternatives. Et ce qui me frappe, c'est qu'Israël joue déjà la carte d'après. Et la carte d'après, c'est l'Asie. Ce sont des pays comme la Chine, l'Inde,
qui ont reconnu la Palestine,
mais qui, en même temps, Si vous regardez les accords défensifs entre l'Inde et Israël, ils sont extrêmement étroits. La Chine est passionnée par Israël. Elle y voit d'ailleurs une sorte de mini-version d'elle-même. La diaspora, comment un peuple aussi ancien peut-il tenir aussi longtemps ?
La Chine a investi le conflit israélo-palestinien, on les sent pourtant très absents de ce débat, de ce sujet.
Alors, ils sont pas présents dans le débat, mais ils commencent à s'y intéresser. On voit que du côté israélien, on se dit, au fond, ce ne sera pas toujours l'Amérique. L'Amérique, elle est en train de décliner, elle nous aide à très court terme, mais au-delà, donc il y a cette vision de l'Asie qui est, me semble-t-il, très intéressante, parce que les pays asiatiques, eux, ne se sentent absolument pas responsables de ce qui a pu se passer en Europe dans les années 30 et 40. Ils ont d'autres préoccupations.
Dominique Vidal, est-ce qu'on pourrait imaginer un format G5+1, donc c'est-à-dire les pays du Conseil de sécurité plus l'Union européenne, ceux qui ont négocié un accord avec l'Iran, avec pourtant des pays qui n'étaient pas tous d'accord entre eux, et on a donc ça comprendrait la Chine, la Russie, les États-Unis et puis les pays d'Europe occidentale, la France et l'Allemagne en particulier.
Je crois que c'est un format intéressant qui mérite d'être étudié. Je voudrais quand même dire sur l'Asie, parce que c'est important, qu'il y a une illusion chez les dirigeants israéliens qui mélange deux choses. Oui, ils ont de bien meilleures relations qu'autrefois avec l'Inde. La Chine est un peu plus distante quand même. Mais ça ne modifie pas la position des pouvoirs à Delhi comme à Pékin sur la question israélo-palestinienne. Ces deux pays votent, comme le reste du monde, grosso modo, en faveur des droits des Palestiniens.
Donc, est-ce que ce sont des alliés des Palestiniens ? Parce que c'est ça qu'on cherche aujourd'hui.
Je crois qu'il y a une conscience internationale forte que le dernier conflit de décolonisation au monde doit se solder par un règlement qui respecte les droits des Palestiniens. Que ce soit dans un État à eux, à côté d'Israël, que ce soit dans un État unique, puisque la direction israélienne va sur cette piste, mais à ce moment-là, avec des droits égaux. Donc on a, si vous voulez, une vraie situation très paradoxale. Et moi, je suis frappé du fait que ce gouvernement israélien, de droite et d'extrême droite, est très inquiet au point de voter, pour une opinion qui pour l'instant est quand même très droitisée, des lois liberticides absolument incroyables. Je ne veux pas en faire la liste, il y en a 10. Mais une, il y a une loi qui permet à 90 députés sur 120 d'expulser les 30 restants du Parlement. Imaginez la République en marche expulsant le groupe du FN, le groupe de la France Insoumise.
On parle beaucoup des Israéliens, j'aimerais qu'on parle des Palestiniens, parce que c'est notre sujet et on en parle finalement assez peu. Quels sont leurs alliés aujourd'hui sur la scène internationale ? Au-delà de... Alors, on a cité le nombre de pays grandissants qui ont reconnu la Palestine comme État, mais qui sont leurs alliés vraiment aujourd'hui ? Qui est vraiment l'ami des Palestiniens ?
Ceux qui s'intéressent vraiment à eux, qui considèrent que la cause palestinienne est une priorité, doivent se compter sur les doigts d'une main, ils ne sont pas importants. En fait, ils sont terriblement solitaires. Mais je voudrais rebondir sur les paradoxes que mettait en avant Dominique Vidal. Selon des sondages sérieux, 60% des Israéliens, 60% des Palestiniens préfèrent la solution des deux États. Et 80% des Israéliens et 80% des Palestiniens ne croient pas qu'on atteindra cette solution. C'est, me semble-t-il, le nœud du problème. On voit bien quelque part rationnellement qu'il faut deux États, mais on n'y croit plus.
Je voudrais ajouter une chose.
Rapide, il nous reste moins de 30 secondes.
Oui, très vite. Je pense que dans cette situation de blocage, la question décisive, c'est celle de l'Union européenne et de la capacité du président Macron en particulier à créer une dynamique qui permettent d'entraîner une partie, en tout cas, de l'Union européenne dans une solution de ce type, en tout cas dans la recherche d'une solution.
Qui soit multilatérale. Merci beaucoup à tous les deux, Dominique Moïsi, Dominique Vidal, d'avoir été avec nous. Dominique Moïsi, je rappelle que vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Vous avez écrit « Le nouveau déséquilibre du monde » aux éditions de l'Observatoire. Dominique Vidal, vous êtes journaliste, historien. Je rappelle le titre de votre livre « Antisionisme égale antisémitisme ?» Réponse à Emmanuel Macron. Il est paru aux éditions Libertalia. Merci également à Florence Pons, Sigrid Azéroual et Pauline Leduc à la réalisation.